Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Eh bien, chers frères, nous revenons aux apparitions des premiers jours, à la quatrième ou à la troisième, ça dépend comment vous comptez. Lors de l'apparition du premier jour, le Christ est peut-être apparu à cette très sainte mère, il est apparu en tout cas à Marie-Madeleine, après que les anges eut parlé aux femmes. Il apparaît ensuite à Pierre, on l'apprend ici. Il apparaît aux pèlerins d'Emmaüs et il apparaîtra visiblement tard le soir, puisque c'est déjà le soir quand ils repartent et qu'il y a 2 heures de route pour aller à Jérusalem. Tard le soir, il apparaîtra aux disciples rassemblés. Si nous revenons sur ce dimanche une fois de plus, c'est parce que l'Écriture nous le dit, c'est le même jour, le même. C'est-à-dire que c'est le dimanche, le nouveau jour. Le jour du Seigneur qui va devenir le Seigneur des jours. Un jeu de mots qui n'est pas de moi, mais de Zeb de Césarée, 4e siècle, pour nous indiquer combien ce jour devient important. Le dimanche n'est pas simplement le samedi transporté, ce n'est même pas du tout d'ailleurs le sabbat transporté, c'est un nouveau jour. C'est pour ça que c'est le 8e jour. Et ce 8e jour, il est comme le jour premier, comme le jour 1, comme le jour de la création. Alors voyons ce que cette apparition nous dit, parce que chaque apparition nous dit quelque chose de particulier pour la fortification de notre foi. Ici, il y a 2 choses très claires. Il y a d'abord la route que font les 2 disciples et le repas qu'ils prennent avec le Seigneur. C'est mon plan. Tout d'abord, la route. Faire route, c'est partir et revenir. D'abord, ils partent. Il s'agit de Cléophas. On le connaît, ce n'est pas un inconnu dans l'Évangile. Vous avez déjà entendu parler de sa femme, Marie, la femme de Cléophas, la cousine, celle qu'on appelle la sœur de Marie, la Vierge Marie. C'est donc des cousins du Seigneur. C'est la mère de Jacques, enfin c'est le père de Jacques, l'apôtre. C'est donc des gens, des intimes. Quand il dit que les femmes l'auront bien dit, mais ils ne les ont pas cru, il parle de sa propre femme. Hein. C'est Cléophas. Marie, femme de Cléophas, va au tombeau. Elle a vu les anges. Il y a des maris qui ne croient pas leur femme. Ça peut arriver. Enfin, donc il s'en va et il est avec un autre disciple. Cet autre disciple, aucune ambiguïté, c'est vous. C'est moi. C'est chacun de nous, nous sommes convoqués à suivre ce disciple pour suivre son chemin. Or, ce chemin, il est désespéré. Ils sont tristes, c'est fini, c'est foutu. Ils ont pensé qu'ils avaient tenu là un vrai roi, et puis ça s'est évaporé. Humainement, l'affaire est terminée. Mais voilà, nous aussi, dans notre propre vie, il nous arrive, humainement, d'être désespérés, d'être tristes, et de partir de Jérusalem, c'est-à-dire de partir du lieu du salut, de nous éloigner de la grâce au lieu d'y revenir. C'est une folie, alors que l'on est triste, alors qu'on est désespéré, on devrait courir au-devant du Seigneur, parce que c'est là qu'on en a le plus besoin. Et il s'éloigne. Heureusement, le Seigneur va les rattraper sur cette route, et s'il les rattrape, c'est pour une raison très précise, sinon sa propre volonté. C'est d'abord... Je ne vais pas aller lui dire de se taire, Jean-Baptiste, où je vais y aller. C'est d'abord parce qu'ils se parlent l'un l'autre et qu'ils s'interrogent. Oui, ils interrogent leur propre foi. Ils sont pleins de doutes, certes, mais ce n'est pas parce que vous avez des doutes qu'il faut vous arrêter. Qu'il faut vous arrêter de vous interroger, c'est-à-dire d'échanger. Dites que vous doutez. Il m'arrive tard le soir, à Stanislas, d'avoir quelques élèves qui viennent. Alors quand un élève vient à 23h pour dire à un des aumôniers qu'il n'a plus la foi, qu'il ne croit pas, que tout ça c'est des bêtises, je me dis qu'on est sur la bonne route. On est sur la bonne route, c'est-à-dire qu'il est encore en train et surtout qu'il se pose des questions. Rien ne serait pire que de ne plus s'interroger. Que de ne plus interroger votre foi, y compris avec votre raison. Le Concile Vatican I avec une merveilleuse formule, le dit, la capacité de la raison humaine d'avancer dans l'existence de Dieu et dans sa paternité. Bien sûr, je ne peux pas tout savoir par la raison, mais la raison est un don de Dieu, un éclat de l'intelligence divine qui m'est donné sans cesse, car Dieu est Logos, il est raison, et il se dit raisonnablement, je peux sans cesse pénétrer la connaissance de Dieu, même si évidemment, je ne pourrai pas le terminer, le comprendre, car il me dépasse infiniment. Oui, ils échangent, ils sont deux, et c'est déjà là leur salut. Deux chrétiens qui parlent ensemble de leur foi, où qu'ils en soient, commencent déjà par trouver le chemin du salut. D'ailleurs, après qu'ils l'ont trouvé, après qu'ils ont compris, ils vont aussitôt se lever et partir là où se trouve l'Église, là où se trouvent les apôtres, là les arts de la Jérusalem céleste, là où va être annoncé l'Évangile. Voilà pour nous l'enseignement de cet itinéraire. Il nous faut sans cesse revenir au Christ. Où que vous en soyez, désespérez que vous rencontriez les gens autour de vous, tant qu'ils veulent s'interroger, penser, échanger et avancer vers le Christ, alors ils sont déjà sur le bon chemin. Mais il y a plus aujourd'hui, venons-en à l'apparition elle-même au cours du repas. Ce repas, il y a deux portes d'entrée. La première porte d'entrée, elle est très humaine et très divine à la fois. C'est la charité. Vous avez remarqué, ils ne laissent pas repartir cet étranger. Ils ont remarqué que c'était un étranger. Et oui, le Christ, tout ressuscité qu'il est un Galiléen. Et d'après l'accent de sa voix, d'après son allure et la manière dont il s'habille, on voit qu'il n'est pas de la ville. Alors ils savent. Ils n'ont pas reconnu que c'était le Christ, mais ils savent qu'il n'est pas de Jérusalem. Bien, ils ne le laissent pas partir. Ils vont le retenir. Ils vont le retenir car leur échange a été si brûlant qu'ils ne peuvent pas terminer sans un repas. Et pourtant, le Seigneur va faire semblant de partir. Ça, c'est extraordinaire. Le Seigneur qui les suit, qui visiblement a décidé de les fortifier, qui leur explique et qui a décidé de se révéler à eux, fait semblant de partir. Ne vous y trompez pas, mes bien chers frères, quand dans votre vie, le Seigneur semble se retirer, aller plus loin. C'est l'espace de votre liberté qui s'ouvre. C'est la deuxième porte de ce miracle, la charité et la liberté. C'est le Seigneur qui vous laisse alors le saisir et lui dire « Reste, reviens, reste avec nous ». Et oui, si les seigneurs se révélaient d'une manière fulgurante et glorieuse, ils le pourraient. Combien de fois ne l'avons-nous pas espéré ? Qu'en serait-il de l'acte profondément libre qu'il nous y reste de poser face à lui ? Nous ne serions plus grand-chose. Nous serions comme happés, sans choix, devant le Seigneur qui se révèle. Eh bien, il n'en est rien. Le Seigneur fait mine de partir. Le Seigneur laisse ce petit espace pour que nous l'attrapions par la manche et pour que nous voulions, nous, dîner avec lui. Alors, c'est l'apothéose. Le Seigneur va rendre grâce, rompre le pain. Jusque-là, rien d'original pour des Juifs. C'est la procédure habituelle de celui qui dirige. Mais voilà, le miracle, c'est que au moment où il rompt le pain, ils le reconnaissent. Et là, comble du paradoxe, au moment où leurs yeux s'ouvrent, au moment où ils reconnaissent le Christ, ils se dérobent à leurs yeux. Deux enseignements à tirer. Le premier, c'est comme l'apparition à Marie-Madeleine. Souvenez-vous ce que le Christ dit à Marie-Madeleine quand enfin elle le reconnaît. Elle le reconnaît plus vite, mais c'est une femme. Alors, il n'y a pas besoin de s'expliquer pendant toute une journée. Mais, malgré tout, quand elle le reconnaît, elle va essayer de le retenir. Noli me tangere, ne me retiens pas, devrait-on traduire. Ne me retiens pas, car le Seigneur n'est pas venu revivre la vie parmi ses disciples, il est venu leur annoncer qu'il est vivant, leur apparaître. C'est pas la même chose. Eh bien, ici aussi, avant même qu'ils en expriment le désir, au moment où il leur apparaît, il n'est plus là. Mais il y a plus. Au moment où il disparaît de leurs yeux, ils ont devant eux l'Eucharistie. C'est ce qui va se passer dans un instant. Juste après la consécration, je vais élever au-dessus de nous tous la Sainte Eucharistie, le Christ présent sous le voile de la foi. Vous allez y voir du pain. Priez le Seigneur de tout votre cœur que vous puissiez reconnaître votre Sauveur par la foi. Oui, le Seigneur est tout proche de se donner. À travers les signes du pain et du vin, il va nous donner la réalité de sa propre vie. Oui, nous sommes venus à Jérusalem comme les apôtres. Nous sommes venus prier, méditer l'Écriture, lire l'Écriture, célébrer l'Eucharistie. Alors pourquoi le Seigneur se refuserait à vous ? Il va se donner, demander de le recevoir avec plus de foi, plus d'amour que la Vierge Marie, plus de folie que saint Paul, plus d'ardeur que sainte Thérèse d'Avila ou que sainte Catherine de Sienne. Demandez grand, le Seigneur peut tout. Amen.